Znaes,
Ah,
né?
et là, c'était dans le cloud. Tu veux mettre dans les clouds?
Ouais.
Comme
Ah
ça.
non, mais ce serait dans ton cloud. Non,
Ah,
c'est pas
non,
bien.
mais je peux le
Non,
récupérer.
non, non, non.
Je peux le récupérer, pas de souci.
Attends, mais t'es sûr?
Oui.
Tu peux m'envoyer le lien?
Oui, je vais le récupérer. Je vais le
Ok.
trouver.
Bon, je suis désolée, on avait des soucis techniques avec Zoom. On a changé au Zoom FFL de Gaïa et puis maintenant on espère que l'enregistrement fonctionnera.
Voilà, on avance sur essayons de comprendre en quoi consiste la fraude et quelle est sa portée. Alors, il y a plusieurs publications qui ont cherché à mesurer ce phénomène qui est difficile à mesurer en fait, parce que on se fait confiance et puis on pourrait déjà partir de l'idée que il y a plein de publications qui contiennent des erreurs volontaires et qu'on n'arrive pas à repérer comme fausses, qui sont juste là. Donc, il est très difficile de mesurer de manière correcte, via des critères certains, la fraude à cause de la manière de faire la recherche scientifique aujourd'hui. On fait des recherches, on partage avec nos pairs, on publie. Une série d'études ont été réalisées. Ce que je vous montre là, c'est une étude publiée en 2012. Ça fait déjà 2 ans. C'est juste un exemple pour vous dire comment est-ce que régulièrement on cherche à comprendre l'ampleur du phénomène. Et c'est publié dans PNAS. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés en particulier aux articles retirés. Donc, on travaille sur la réaction à la fraude. On va regarder dans un dataset en particulier, ils ont regardé dans PubMed combien de publications ont été retirées entre 1977 et 2012. Et ça fait environ 2000 papiers. Et puis, ils ont regardé les notices de rétractation. Pourquoi le papier avait été retiré? Pour quelles raisons? Ils ont fait une analyse des notices de rétractation. Et puis, si la notice de rétractation parlait d'une enquête qui était menée et qu'il y avait les références par rapport au rapport d'enquête qui avait mené l'enquête, les scientifiques qui ont publié ces papiers sont allés creuser, sont allés retrouver des rapports d'enquête, faire référence à l'institution qui avait mené l'enquête pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut classifier la raison de rétractation de l'article. Ils ont décidé d'utiliser 4 portes d'entrée pour la rétractation. Alors, fraude, en général, il y a bien de choses là-dedans, mais ça pourrait être effectivement, on fabrique des données, on les falsifie. Voilà, les différentes formes qu'on peut avoir comme fraude. Plagiat, voilà, on a copié-collé de bouts de publications d'autres sans déclarer la ressource. Ce qu'ils appellent duplicate publication, qui est aussi quelque chose qui est retrouvable dans les notices de rétractation, ça veut dire quoi? C'est aussi nommé en anglais salami slicing. Donc, j'ai besoin de produire des publications, j'en fais une très jolie, et puis j'en fais 3 autres parce que je récupère des bouts de la première et je les réutilise pour en faire 3 d'autres. Est-ce que ça sert à quelque chose à la communauté scientifique? On en doute. On le fait exprès? Oui, pour produire plus de publications. Pourquoi? Pour augmenter notre impact facteur. Si jamais il y a des gens qui tombent sur les 3 autres que je fais et les citent, pour allonger ma liste de publications quand j'applique à des postes, quand j'applique à des fonds. Et puis l'erreur aussi, hein, ça... Là, vous voyez les pourcentages de qu'est-ce que ça donne. La plupart des notices de rétractation parlent de on retire l'article parce qu'il y a fraude ou c'est duplicate publication ou c'est plagiarisme, et seulement une petite partie, un quart en gros de ces 2000 papiers retirés, c'est erreur. Est-ce que c'est une mesure fiable du phénomène? Non. On regarde par une petite fenêtre, rétractation dans ces datasets, on cherche à quantifier, on cherche à mesurer, c'est juste pour avoir une quelques prises sur cette réalité. On comprend que c'est encore quelque chose de très, très rare parce que le nombre de publications est énorme dans ces décennies. Et puis, c'est juste une toute petite partie qui est retirée. Mais c'est intéressant de voir là-dedans qu'est-ce que ça donne. Dans cet article, ce qui est intéressant, qu'il y a aussi des analyses temporelles qui sont faites sur la période analysée. Ce qu'ils ont trouvé est que, intéressant, on observe une énorme augmentation du phénomène fraude, en particulier, c'est la colonne rouge, à partir des années 90. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? On fait des hypothèses. Pourquoi on en trouve plus sur le pourcentage d'articles retirés? Parce qu'on est mieux capable de repérer les fraudes. Il faut savoir qu'en 1989, aux États-Unis, le pays qui produit la plupart des publications scientifiques dans les revues du monde, on installe un bureau fédéral pour contrôler l'intégrité scientifique et punir les fraudes. C'est un bureau fédéral qui fonctionne comme, c'est une armée de scientifiques, experts qui passent à la crible pour les revues toutes sortes de soupçons de fraude et arrivent à mener des enquêtes de manière très efficace, très rapide et très valide et aident à nettoyer le domaine de publication et recherche qui sont produits par des mauvaises pratiques. Il y a aussi des nouveaux moyens techniques qu'on utilise à partir de la fin des années 90 pour bien repérer des fraudes. Ben, vous connaissez le logiciel qu'on utilise à l'EPFL pour le plagiat. Ben, il y en a plein. Il y en a plein de plus en plus sophistiqués. Et puis forcément, ça permet d'en repérer plus. Il y a aussi un nombre plus élevé, un nouveau phénomène hein, qui apparaît vraiment à partir des années 2000, ce qu'on appelle plagiat et duplicate publication, c'est aussi un lien avec ces nouveaux moyens que les journaux utilisent pour repérer ces mauvaises pratiques. Quand on regarde un peu la croissance du nombre de rétractations pour fraude en particulier dans la période analysée, 1975-2000, 2012, on observe que ça a augmenté 10 fois sur la période. C'est assez impressionnant. Mais comment ça s'explique? Dans l'article, intéressant ressources, si vous allez regarder, on dit que bah, finalement, on publie beaucoup plus. C'est aussi à cause du fait qu'on est plus attentif à repérer ces fraudes et on a des meilleurs moyens. Mes conclusions, peut-être pas forcément consolatoires, on pourrait se dire que c'est un phénomène systémique. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir un phénomène systémique de ce type-là, même si il est très limité. Hein. Idéalement, on ne devrait pas avoir ça dans la science, mais on l'a. Et ça veut dire quoi, un phénomène systémique? Ça veut dire que on vit avec. OK, on fait le maximum pour le repérer. OK, on fait le maximum pour fermer, pour former les gens, pour éviter que ça arrive. Mais ça arrive de toute manière. Et c'est peut-être pour d'autres facteurs qui sont liés à la manière dont aujourd'hui on produit des connaissances qu'on a ce phénomène systémique. Et peut-être qu'on revienne aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, la concurrence globale, le publish and perish, l'exigence avancée. Plus rapidement qui est nécessaire, qui est possible. Et voilà. Donc, c'est une conclusion sans autre, pas heureuse. Peut-être pas, on va pas, ça va pas nous éviter de dormir cette nuit, mais c'est ça qui est intéressant et qui est montré dans la littérature aujourd'hui. Alors, je donne d'autres éléments du réel. En 2010, des journalistes scientifiques et anciens chercheurs s'intéressent énormément aux problèmes de mauvaises pratiques dans la recherche et montent un blog qui s'appelle Retraction Watch. Et puis ces blogs qui commencent à publier des articles d'enquête bien faits, mais sur des histoires comme par exemple déjà arrivé, Jan Hendrik Schön, mais d'autres, ils deviennent une référence importante parce qu'ils accumulent toutes les données qui existent sur les recherches entamées de fraude, les articles retirés. Ils construisent une base de données qui compte désormais plus que 18 000 articles documentés, pourquoi on les a retirés. Et ça devient maintenant, depuis 2016, Retraction Watch a été englobé dans Science et ça devient partie des bases de données Science pour aider les chercheurs à repérer vite si la publication est fiable ou pas, parce que si elle est là dans Retraction Watch, elle a été retirée et il y a des raisons claires pourquoi elle a été retirée. Il y a une chose qui est très sympa sur Retraction Watch, je vous invite à aller regarder le site web. Il y a la top 10 most highly cited retracted papers every year. Mettre à jour une liste de 10 articles le plus cités au monde dans la littérature scientifique ont été retirés. Et depuis des années, il y a en troisième ou quatrième position, ça varie, un article qui a été publié à la fin des années 90, en 1998, par un scientifique qui s'appelle Wakefield et qui, à l'époque, avait réussi à créer une véritable controverse scientifique avec une hypothèse scientifique qui, lui, il avait dit avoir démontré par des études scientifiques menées sur des enfants, sur des populations et qui s'est avérée fausse. Donc, vous avez peut-être entendu dire cette histoire comme quoi le vaccin contre la rougéole est lié à l'autisme chez l'enfant. Faux. Mais cette publication, elle a eu une résonance globale énorme et on se rend compte, selon les domaines où on travaille, dans votre domaine en particulier, si on commet de fraude, on peut vraiment avoir des effets néfastes. Et puis, bah, nous, on a eu de vagues d'épidémies de rougéole dévastatrices en Europe depuis la publication de ces études. On a mis beaucoup de temps à démontrer que c'était faux parce que dès la publication de l'étude, ce qu'on a fait, c'était on est sauté dans la controverse scientifique. Donc, il y avait des experts pour, contre. On a mis énormément de temps pour retirer certains articles, donc celui-là, qui est retiré en 2010, finalement, fraude. Et puis, vous voyez le temps, le nombre de citations globales. S'il a été cité 710 fois de la publication à la rétractation, ce nombre reste stable. Par contre, ce qui change dans la top 10 chaque année, c'est ce nombre-là. Combien de fois l'article est publié après rétractation dans la littérature scientifique qui augmente chaque année? Et vous dire, mais ce n'est pas possible. Eh bien, il est référencé encore dans certaines publications. Et puis, bah, vous voyez, c'est pour vous montrer l'inertie du système de peer review scientifique. Oui, alors il y a des. Oui. Excellente question. Alors, en fait, on a des datasets, mais on a, et puis vous aussi, ben, il suffit de googler le titre, hein, le demi-titre d'un article ou un auteur que vous avez entendu. Il y a dans le web énormément de copies de papiers qui ne sont pas forcément, qui sont disponibles, qui ne sont pas forcément là dans les datasets scientifiques. C'est l'un des problèmes qu'on a, c'est pas seulement les datasets scientifiques accessibles et nettoyés qu'on peut accéder, il y a le reste. Mais aussi, il y a un problème dans les datasets scientifiques. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, pas tous les datasets arrivent à faire le nettoyage dans le timing demandé ou arrivent à faire le nettoyage comme il faut. Donc, il y a vraiment le problème est systémique, quand même est tout petit, mais il est systémique et on a un système énormément, voilà, lent et qui n'est pas complètement efficace pour contrer. Alors, de nouveau, le problème, quand est-ce qu'il est grave? Alors, déjà, ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle de savoir qu'on a un problème systémique, qu'on a de la peine à aller à le contrer, à le cerner, qu'il est toujours un peu là, qu'on est long. Mais surtout, c'est dans ces cas-là que ça peut produire énormément de dommages. Donc, selon le domaine dans lequel on travaille, l'intégrité scientifique est hyper importante. Oui. Pardon, il y avait votre collègue et puis je vous donne. Oui.
Moi, je me demandais, est-ce que quand vous décidez après sa rétractation, il n'y a pas aussi un petit peu des citations parce que c'est un mauvais article et donc, enfin, une étude qui est faite pour dire, regardez, on a étudié les papiers, vous m'avez rétracté, on peut citer les papiers-là,
Alors, tout
pardon.
à fait.
Dans ce cas-là,
Ça
c'est pas.
peut, ça fait partie de ce chiffre, mais ce n'est pas la majorité, effectivement. Mais ça fait partie. Ça, on peut dire, mais dans les publications scientifiques, on est plus intéressé à se baser sur, voilà, les données qui nous permettent d'élaborer une hypothèse et de valider nos résultats. Mais voilà, là, c'est compris, effectivement. Ouais.
Donc, les différents types d'articles qui ne risquent pas eux-mêmes
Oui,
de se faire rétracter.
mais oui, bien sûr.
Mais du coup, parce que quand on cite un paper, on va chercher dans des bases de données connues, par exemple, pour même, etc. Si on va le chercher ailleurs, on sait très bien que c'est mauvais. Donc, pourquoi eux-mêmes
Voilà.
ont à
Effectivement, si on le cite, qu'on n'a pas encore compris qu'il est retiré et qu'il ne faut pas le citer. Mais ça arrive. Donc, et puis, pour que la base de données ou le journal puisse refuser l'article ou nettoyer de la base de données l'article qui a cité la mauvaise référence, il faut encore du travail. Ce n'est pas le travail prioritaire d'un scientifique dans le domaine de faire le peer reviewer et les nettoyeurs de base de données. Les journaux, oui, ils ont des ressources, mais pas énormes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui repose beaucoup sur la capacité individuelle à faire de la science fiable, honnête, respectueuse et responsable. De vraiment être conscient il faut faire attention. Il ne faut pas juste, pour vite terminer le papier, copier-coller la liste de références qu'on va sélectionner via ChatGPT de l'autre article qui a eu beaucoup de succès et la coller dans notre article. C'est basique, mais voilà, c'est effectivement des choses qui peuvent arriver. Alors moi, j'aimerais encore vous donner quelques idées, d'autres exemples. De nouveau, vous ne devez pas pour l'examen savoir décrire le contenu de l'article que je viens de vous montrer ou de cet autre article que je cite. Ce qui est important, que vous sachiez répondre à la question, qu'est-ce qu'une fraude scientifique, pourquoi elle est grave, qu'est-ce qu'une intégrité dans la recherche, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir l'intégrité dans la recherche. Mais c'est pour vous donner de bout de réalité pour essayer de cerner le phénomène. Là, c'est une autre publication. Il y en a énormément qui s'intéressent à la fraude et sont menées par des scientifiques. Là, par exemple, on s'intéresse au travail de ce scientifique dans le domaine de la recherche sur la douleur et qui a énormément contribué au domaine, surtout pour la recherche de base. Pour aller ensuite développer des médicaments analgésiques, antalgiques. Et notamment, lui, il était un spécialiste de ce qu'on utilise dans la gestion de la douleur en phase post-opératoire en particulier, mais aussi, il a contribué au pré-opératoire parce que dans l'anesthésie, on a plein de médicaments qui peuvent aussi aider les post-opératoires. Bon, j'ai sondé. On s'intéresse à. Ces 21 publications qu'il a fait durant sa carrière qui ont eu un important impact sur le domaine et dont 15 ont été retirées finalement parce qu'elles étaient basées sur de mauvaises pratiques de fraude. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cet article, c'est que les auteurs de l'article qui sont des scientifiques du domaine se disent, comment ça se fait qu'on continue à les citer, ces messieurs? Et qu'est-ce qui nous arrive quand on le cite dans les domaines, pour publier des articles dans les domaines? Alors, ça arrive effectivement ça. Je vais vous montrer par le graphique. Alors, on voit le nombre des situations, des citations en vert à partir de 2009, depuis la rétractation de ces 15 articles. Sur les 21. Et puis, on voit en blanc, en fait, quand on le cite en indiquant, comme votre collègue disait tout à l'heure, qu'on le cite parce qu'il a été retiré. Pour dire, il ne faut pas le citer. Et puis, ce qu'on observe, c'est que, oui, on va diminuer le nombre de citations, c'est très bien, mais on va continuer à oublier de plus en plus de dire que il faut pas les citer. Et puis qu'on arrive près de la publication de cet article, on a quand même cet écart énorme entre ceux qui le citent, ben, qui disent attention, il faut pas les citer, qui sont désormais, le temps passe, pas trop nombreux, et ceux qui continuent encore à les citer. C'est un article très intéressant, mais de nouveau, c'est pour vous montrer, bah, on s'est beaucoup intéressé en tant que scientifique à qu'est-ce qui nous arrive avec ces questions de la fraude. Et puis, bah, effectivement, le système est complètement inerte et on a très peu de mémoire. Mais pourquoi ça arrive? On cherche à comprendre. Alors, on revient sur quelques explications très concrètes. Il est vrai qu'il y a plein d'auteurs qui s'intéressent à ces publications-là en particulier, qui sont hors du domaine strict de la recherche sur la douleur de base pour développer des analgésiques anesthésiques pour la gestion de la douleur en phase post-opératoire. Ils sont dans la recherche sur la douleur, mais peut-être pas dans cette recherche de base spécifique. Ils citent, mais juste pour mettre la référence dans l'article. Parce que c'est un auteur qui a beaucoup contribué, ils savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi un problème dans les datasets, quand on a des notices de rétractation, parfois elles sont pas trop claires. On n'explique pas vraiment pourquoi ça a été retiré, qu'il faut jamais plus l'utiliser. Donc, il faudrait peut-être travailler sur des instructions, des informations aux scientifiques, surtout qui n'est pas de domaine, faut pas se baser sur ça. Ensuite, comme je vous disais, on a un web débordant avec plein de versions, des papiers qu'on trouve beaucoup plus vite si on Google plutôt que s'inscrire à la bibliothèque EPFL, entrer dans la base de données, télécharger l'article, etc. Donc, et on a des limitations dans les logiciels qu'on utilise dans les bases de données pour nettoyer et mettre à jour. Ça va, c'est la réalité, c'est pas ouais, ravissant, mais c'est comme ça. Science, comme je vous disais, ils ont englobé Retraction Watch et comme ils ont englobé Retraction Watch, ils s'intéressent à faire des recherches. Qu'est-ce qu'il y a dans Retraction Watch? Et alors, dans cet article, ils ont regardé une partie de ces articles dans Retraction Watch, ils ont cherché à faire des évaluations. C'est intéressant ce qu'on trouve parce que, par exemple, ils se disent, bah, finalement, on peut dire combien d'articles sont retirés par cause de fraude sur quelques milliers. Sur 10 000 articles, 4 sont retirés pour cause de fraude. C'est minime. C'est très, très peu. Bonne nouvelle. Mais ils sont toujours là. Les journaux qui retirent, qui font attention, sont toujours plus nombreux. Mais il y en a toute une série qui devrait faire un peu plus de travail. Par exemple, Clarivate. C'est une base de données. Bah, vous allez voir si vous continuez dans le domaine de l'argent, mais aussi dans l'industrie, parce que vous allez contribuer en tant que consultant, savant. Dans les domaines, donc vous allez vous baser sur les outils qu'on vous a appris, la littérature, les publications. Il y en a 12 000 de journaux dans Clarivate qui ne publient pas de notices de rétractation depuis 2003. C'est quand même un problème. Donc il y a vraiment un problème de gestion de nos bases de données qu'on utilise dans la recherche. Et puis, ben, c'est vrai qu'on observe qu'il y a des pays où les revues sont basées, qui ont plus de peine parce qu'ils ont moins de ressources à consacrer à promouvoir l'intégrité dans la recherche et éviter les fraudes et retirer les articles. Il y a des pays où on n'a pas toutes les ressources qu'on a aux États-Unis, on ne peut pas monter un bureau fédéral de l'intégrité scientifique qui travaille comme on travaille aux États-Unis. Et puis, il y a des journaux qui ont des hésitations, qui hésitent. Parce que c'est assez stigmatisant, hein, de retirer des articles à cause des fraudes. Pendant la COVID, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a retiré des articles publiés dans l'Ancet, par exemple, qui est quand même une référence dans le domaine, parce qu'ils ont entendu des fraudes. Mais ils étaient publiés dans l'Ancet. Forcément, ça ne donne pas un bon signe pour l'Ancet d'y arriver, mais il faut le faire. Mais à propos des hésitations, je raconte brièvement cette histoire. On a eu un scientifique dans les domaines de la chirurgie et médecine régénérative qui a travaillé en Suède autour des années 2010 et qui, lui, il allait, en fait, il a fait des transplantations des trachées à des patients. Il a fait 8 transplantations sur 8 patients. 7 patients sont décédés. Le dernier, il va très très mal depuis. Il a publié dans des revues Côtier les résultats de ses recherches en disant que, voilà, forcément, c'est basé sur des données faussées. Il a déjà accusé en 2015, hein, de fraude scientifique. On monte une enquête. On le vire, on comprend que la recherche animale qu'il disait avoir fait, elle était pratiquement inexistante, que les personnes qu'il avait convaincues à s'opérer pour avoir cette transplantation, en fait, pouvaient se passer de se faire opérer, mais en tout cas. Ce qui se passe, c'est que finalement, on arrive au bout des investigations en 2017, mais c'est seulement en 2018 que l'Ancet décide de retirer finalement ces publications qui apparaissent clairement problématiques à partir de 2015. Et puis il le fait parce qu'il veut bien faire les choses, il veut bien distribuer les responsabilités. Il y a plusieurs co-auteurs, entre autres des chirurgiens qui étaient avec lui au salon opératoire, qui d'ailleurs sont parmi les premiers qui dénoncent la fraude parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ses interventions. Et pour bien distribuer les responsabilités, donc il y en a qui sont complètement blanchis, disons comme ça, il y en a qui sont considérés quand même en partie responsables, et puis lui, carrément. Si vous voulez, bah, c'est un cas extrême, et d'ailleurs, tellement extrême que Netflix vient de sortir avec un documentaire en 3 parties, 45 minutes, que je vous conseille d'aller voir, parce que c'est étonnant, The Bad Surgeon. Allez le voir, il est sorti ces derniers jours. Mais c'est pour vous dire, la réticence à cause du stigma de la rétractation des revues n'aide pas à résoudre le problème, ou en tout cas le rend encore plus systémique. Alors moi, ce qui me fait mal au cœur, hein, est que l'une des publications que j'adore, est-ce que le régime méditerranéen peut éviter les problèmes cardiovasculaires? Moi, je suis italienne, donc vous imaginez une telle publication, c'est. Mais ouais, c'est génial! Alors, en fait, ça fait la première position de la top Cite Retracted Papers depuis qu'il a été retiré, pratiquement. Mais ce qui est intéressant dans cette publication on s'est fait avoir, hein, on s'est fait tout savoir, y compris les médias, parce que c'est une étude vraiment super bien faite. C'est une étude, bah, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est une étude longitudinale. Il y a eu des armées des scientifiques pendant 20 ans, on nourrit l'étude. Et puis... Mais ce qui arrive, c'est que parmi les publications, il y en a certaines qu'on a dû retirer à cause de biais, bias, on dit. Et puis, c'est effectivement, là, on est en difficulté parce que c'était des erreurs probablement volontaires. Ah, je vous dis juste un exemple. On a mis dans le même sample qu'on allait étudier des couples, pas forcément qui se cuisinent la même chose à la maison. Ce n'est pas possible de créer les groupes de participants, de les suivre pendant longtemps en mettant un couple qui mange et cuisine les mêmes choses ensemble dans le même groupe. Forcément, ça va augmenter les résultats dans un sens plutôt que dans l'autre. Il n'y a pas assez de variété dans ce sous-sample. Il y en avait plein de biais dans la construction de l'étude, dans le design de l'étude qui ont fait ci, qu'on a retiré des publications. Et quand on parle de ces biais, on est sur quelque chose qu'on appelle la zone grise. Et c'est ça la difficulté. Parce que d'un côté, il y a les FFP, falsification, fabrication, plagiat, les gravissimes, on est d'accord, là, il ne faut pas le faire. De l'autre côté, il y a les pratiques qu'on met en œuvre dans le domaine de la recherche, les pleins de biais qu'on peut avoir quand on construit des échantillons de participants, quand on analyse des données, quand on sélectionne des données pour sortir les données saillantes qui nous permettent de montrer la validité des résultats. Oui, alors oui, ça pourrait être des erreurs qu'on fait de manière involontaire. Parfois, quand on parle de biais, on est plus sur la pente glissante de on fait quelque chose exprès pour essayer de valider l'hypothèse, de montrer le résultat, de les rendre plus beaux. Et puis, il y a cet article qui parle en fait de ces pratiques controversées, questionable research practices, de cette zone grise, une zone qui se situe entre la recherche idéale, correcte, et puis la fraude, et entre les deux, il y a quelque chose voilà, qui ressemble beaucoup à la pente glissante, et puis qui devrait éveiller l'attention du scientifique à éviter de faire ça trop souvent. Moi, je dirais que l'article dans la top 10 liste que j'aime beaucoup, malheureusement, on ne peut pas faire confiance, on se situe sur quelque chose comme ça. On n'était pas trop attentif. Et puis, si on revient aux valeurs, est-ce qu'on était assez responsable? Est-ce qu'on était assez honnête? Est-ce qu'on était assez fiable? Non, fiable, franchement, on n'était pas assez fiable à construire nos échantillonnages comme ça. Alors, ça, c'est plutôt quelque chose qui arrive à. Enfin, ouais, peut arriver. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, c'est une autre publication. On est sur ces pratiques questionnables. Et puis, cette publication, elle a été réalisée en ayant interviewé des scientifiques dans différents domaines pour poser la question, mais est-ce que vous avez observé dans votre domaine si ces pratiques questionnables arrivent souvent, pas souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Vous direz quoi? On est plutôt sur autour de 20%, autour de 30%, autour de 50, plus que 50. Qui dit 20, 30, 40? 30, 40? Qui dit autour de 50? Oui. Plus que 50? Il y a quand même des pessimistes. Et vous avez raison, voyez le résultat. Non, alors, de nouveau, ce n'est pas la science empirique, mais c'est pour vous dire, effectivement, on est dans un domaine ou dans des domaines dans lesquels on a besoin de faire avancer la science, de publier, et puis peut-être qu'on serait exposé à ces risques de mauvaises pratiques, et la frontière est très très fine, très très fine entre la vraie mauvaise pratique de la recherche et quelque chose qu'on pourrait se dire, oui, pratique questionnable, pourquoi? Parce qu'en fait, on manque de quelqu'un qui nous dit, il faut pas le faire, de quelqu'un qui nous forme à, il faut pas le faire, quand tu analyses des données, il faut faire comme ça, quand tu construis la recherche, il faut faire comme ça. On manque d'institutions qui nous aident, qui nous soutiennent avec de la formation, avec de l'accompagnement, à éviter de tomber de l'autre côté de la frontière. Oui.
Par rapport à ça, peut-être que certains résultats ne sont pas reconnaissables, mais je pense que là, par exemple, aux statistiques, l'analyse de données, est-ce qu'il y a un peu des scandales par exemple, dans la science, pour vérifier les statistiques ou pas, ou c'est juste basé sur les théories, mais du coup, c'est des personnes qui sont intéressées à. Enfin,
Alors, je pense que selon les domaines, il y a sans doute des outils. Et puis, c'est aussi, ben, surtout les experts en statistiques qui travaillent comme peer review dans les commissions d'enquête ou dans parmi les éditeurs ou parmi les peer reviewers des journaux, ils peuvent utiliser ces systèmes. Mais je pense que tout repose en fait sur comment votre mentor vous apprenne à faire l'analyse des données que vous produisez pour votre thèse de master. Je pense que tout repose en fait sur l'expert, le mentor, l'experte, la mentor qui va m'aider à m'orienter bien dans ma pratique scientifique, m'apprend à comment il faut faire ça, voilà, qui m'aide à comprendre est-ce que je suis dans le biais ou pas. Pense que c'est surtout ça, et puis ça peut varier énormément. En chimie, par exemple, c'est vrai que c'est vachement compliqué. Là, quand je parle avec les chimistes, ils me disent, nous, il faut absolument se faire confiance. Parce que sinon, on est complètement perdu. On n'arrivera jamais, bon, pour arriver à aider le pire à vérifier que ce qu'il a fait est vraiment, je devrais être lui à sa place, et puis on fait la même chose, à double. On est le même scientifique, qui fait la même chose, et puis c'est juste impossible parce que le domaine, il est tellement spécialisé, et les travaux sont tellement complexes, il y a un degré de complexité. On a des magnifiques nouvelles intelligences artificielles qui nous aident de plus en plus dans la modélisation, dans votre domaine, par exemple, pour essayer de voilà, analyser des données, comprendre des données, concevoir des hypothèses de recherche. Il faut encore que ces modèles soient bien conçus, hein, qu'ils ne soient pas ChatGPT. Et puis, je parle de ChatGPT parce que je vais arriver à la fin. Alors, comment est-ce qu'on arrive à la fin? Comment est-ce qu'on peut promouvoir? Et c'est dans cette direction qui va aussi votre question à vous, hein, madame, que vous venez de la poser, parce que, effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour éviter de me trouver dans cette situation? Comme je l'ai dit, c'est beaucoup repose dans le mentoring, à mon avis, dans notre formation, et beaucoup aussi sur ce que les institutions peuvent faire pour aider les chercheurs en formation, les étudiants en formation et les mentors à éviter que ça arrive. Alors, je fais l'exemple de l'EPFL parce qu'on est à l'EPFL. Et je vous recommande, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous donner comme conseil dans votre vie, dans votre carrière, allez où? Allez travailler où? Vous avez des entreprises et des institutions qui offrent des outils, qui prennent des mesures, qui ont en place des systèmes de contrôle fiables. Parce que ça, c'est pas possible partout. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait être très intéressé à partir n'importe où dans le monde, mais là où ça manque complètement un oversight institutionnel par rapport à l'intégrité scientifique, on risque de se trouver dans des situations où, effectivement, on est tout seul. On est tout seul. Et puis, bah, les institutions doivent être là pour élaborer des règles. Comme par exemple, à l'EPFL, on a cette directive sur l'intégrité, pour l'intégrité scientifique et les bonnes pratiques dans la recherche avec l'EPFL. Je vous ai invité à explorer les documents et de nouveau, ce n'est pas nécessaire de le connaître pour l'examen, mais je vous encourage vraiment à aller voir ces documents. On explique clairement au début pourquoi on l'a fait. On donne des recommandations claires. Il y a toute une partie qui pourrait aussi vous intéresser. Qui concerne effectivement le mentorat des travaux de recherche, quelles sont les responsabilités de vos mentors vis-à-vis de la qualité de vos travaux. On a aussi mis en place une directive pour agir au cas où il y a une soupçon de fraude scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va les faire. Moi, ce que j'aimerais souligner est que, en fait, cette directive, elle s'adresse à toute la communauté EPFL, qu'on soit de collaborateurs ou des étudiants, parce qu'on tient beaucoup à la valeur de l'intégrité scientifique. Et donc, il faut dire clairement qu'est-ce qu'on s'attend des personnes et comment est-ce qu'on va pouvoir agir au cas où quelque chose arrive. On a aussi à l'EPFL un site web. Il suffit de rechercher ResearchEthics EPFL, mais là, il y a le lien où vous trouvez plein d'informations sur les bonnes pratiques de la recherche. Vous connaissez pas mal de ces informations parce que vous avez étudié dans le cours les règles qui viennent avec la recherche sur l'animal, la recherche sur l'humain, les brevets. Donc, vous allez pouvoir surfer dans ces contenus de manière très aidée déjà. Donc, des ressources, des formations aussi, ça c'est important. À l'EPFL, par exemple, on a mis sur pied une formation à l'intégrité dans la recherche scientifique qui est obligatoire pour tous les nouveaux collaborateurs. Donc, ça veut dire aussi des nouveaux professeurs qui viennent de l'étranger, qui ne se connaissent pas forcément avec le cadre réglementaire éthique que vous avez appris dans ces cours. Ils peuvent avoir une formation. Et puis, on cherche à diffuser la formation de manière par des flyers aussi sur les campus. Si vous êtes intéressé à cette formation, il suffit de vous adresser au Research Office et on peut vous donner l'accès. C'est un e-learning, en tout cas, c'est. Si vous allez cliquer sur le lien, je pense que là, c'est le lien au teaser de la formation. En fait, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a un scénario de découverte scientifique. C'est quelqu'un qui inverse. On vante finalement le télétransport. Et puis, il y a plein de questions qui viennent avec cette trouvaille. Et puis, on a aussi dans les institutions qui tiennent à promouvoir l'intégrité scientifique, on a aussi des ressources comme des comités d'éthique qui aident les chercheurs à effectivement avoir un regard sur son protocole de recherche, qui vise à comprendre si les règles éthiques et juridiques pour la recherche sur l'humain, pour la recherche sur l'animal, ont été bien respectées. Juste pour votre information, sachez que on a une commission institutionnelle interne d'éthique qui s'intéresse à toute recherche menée sur l'humain qui n'est pas soumise à la LRH, parce que si c'est soumis à la LRH, vous savez, ça doit partir vers la commission cantonale. Mais si c'est pas soumis à la LRH et on implique des humains, qu'est-ce qu'on fait? Exemple, on recrute 50 étudiants pour tester un prototype de technologie qui ne concerne pas forcément la santé. Et voilà, mais on implique des personnes, on récolte des données. Il faut éviter des risques liés au prototype pour les personnes. Donc, on passe par cette commission. Et ça concerne aussi les données personnelles. Donc, de nouveau, s'il y a des données personnelles des populations, d'individus qui nous intéressent, qui ne tombent pas sur ce qui est couvert par la NRH, il faut passer par cette commission. C'est pour vous dire, ces comités peuvent faire partie de ressources disponibles dans les institutions pour promouvoir la recherche. Et on en a une aussi interne pour la recherche sur l'animal. Peut-être que Xavier Varro vous a parlé de AREC. Vous avez compris la différence. Ce n'est pas la commission cantonale, mais bah, on aimerait bien vérifier que quand on fait de la recherche sur l'animal à l'étranger, on arrive à se conformer au même standard qu'on adopte en Suisse parce qu'on est des chercheurs basés à l'EPFL. Les journaux aussi peuvent jouer un rôle. Alors là, ce que je vous présente est une déclaration internationale qui a été émise par plusieurs types d'acteurs différents, entre autres aussi des journaux scientifiques. Elle s'appelle San Francisco Declaration on Research Assessment, Declaration on Research Assessment, ça donne DORA. Et puis sachez que le Fonds national de l'EPFL, les fonds d'institutions de recherche en Suisse adhèrent à cette déclaration. Dans le premier article de la déclaration, on remet en question, en fait, la manière qu'on adopte aujourd'hui pour évaluer la qualité de la recherche, c'est-à-dire l'impact facteur. On s'est dit, il ne faut pas se baser uniquement sur l'impact facteur pour juger de la qualité d'un bon travail scientifique. Il faut qu'on arrête de faire ça parce que si on fait ça, en fait, on nourrit le mécanisme qui est caractérisé par l'inertie, par la faute systémique, au lieu de les contrer. Et c'est très intéressant. Dans les faits, comment est-ce qu'on cherche à éviter ça? Ben, par exemple, dans la communication EPFL, vous avez la revue EPFL, de temps en temps, il y a des nouvelles qui concernent aussi SV, hein, des belles publications. Dans la communication, on fait gaffe à éviter de dire l'article est bon parce qu'il a été publié sur Science and Nature, mais pourquoi il est bon? Parce qu'il y a ces contenus-là, on est arrivé à faire ça, ça et ça. Donc, il faut être cohérent quand on adopte des publications, aussi dans la manière de valoriser nos résultats de recherche à l'interne. Alors là, je vous ai fait l'exemple de l'EPFL, mais c'est pour vous dire, pour vous projeter dans votre vie professionnelle future, hein, gardez ça en tête pour que j'aille idéalement là où il y a quelque chose en place, là où je ne suis pas tout seul en tant que scientifique. Tenu être responsable, pas de support institutionnel, pas de formation, pas de commission interne, pas de. Il faut que j'aille quelque part où il y a les institutions qui me soutiennent pour bien faire. J'en termine sur ça. Intéressant cet article de Nature qui a publié en début de cette année. Est-ce qu'une intelligence artificielle comme ChatGPT peut m'aider à produire ma prochaine publication scientifique? Alors, voilà, ChatGPT, il est là, on discute beaucoup, on l'utilise beaucoup, on cherche à comprendre si il faudrait pas éviter de l'utiliser pour certaines activités à l'école et si on peut utiliser des modèles d'intelligence artificielle, peut-être in-house ou homemade à l'EPFL qui pourraient nous aider. Comme la calculette est arrivée à nous aider à apprendre les mathématiques. Mais dans cet article, ça pourrait vous paraître incroyable, mais Nature a dû dire clairement qu'il n'allait plus accepter des articles où on allait considérer ChatGPT comme un co-auteur. Ça c'est fini parce que ça est arrivé. C'est arrivé assez souvent. Et puis que tout outil Language Model Generative AI, on veut l'utiliser pour produire le contenu textuel, il faut le déclarer. Il faut le déclarer pour que le reviewer puisse considérer est-ce que, voilà, on va publier, c'est fiable ou pas. Et ça fait partie de la transparence. Alors, ça pourrait vous sembler une règle presque inutile, mais on a dû mettre à jour le Guide for Authors de Nature. Pour mettre ça noir sur blanc, c'est fini. Surtout parce qu'il y a plein de modèles comme ChatGPT, OpenAI qui sont très très opaques par rapport aux ressources qui sont utilisées et la fiabilité de ce que le modèle produit à la query qu'on va entrer. Et puis la raison pour laquelle, et ça c'est dit très clairement dans cet article, enfin, la raison pour laquelle Nature met un jour ses guides for authors, elle est celle-ci. La recherche doit être transparente dans ses méthodologies, intègre et véritable dans le contenu publié par les auteurs. Et c'est finalement ça qui fonde la possibilité de faire de la recherche scientifique et de faire avancer la recherche scientifique. Et sur ça, je vais terminer et j'aimerais juste prendre le temps, quelqu'un d'entre vous, est-ce que vous avez eu le temps de récupérer dans la liste des questions d'examen une question qui s'approche au contenu qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez trouvée, cette question? La question dans la liste des questions d'examen de l'année passée. Je vous laisse chercher. Crois que ça fait deux pages, hein, les questions, deux, trois pages. Donc, prenez le temps. Vous avez trouvé? Est-ce
Ouais.
que vous pouvez la déclamer?
Oui. Donc, pourquoi l'intégrité dans la recherche scientifique est importante? Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise pratique dans la recherche et comment ça pour les étudiants?
Est-ce que vous pensez être capable de répondre à cette question si vous la piochez à l'examen, après ce cours? Il faut. Bien sûr qu'il faut construire un raisonnement, une réponse. Pourquoi l'intégrité scientifique est importante? Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise pratique? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les contrer? Vous avez plein d'éléments là que vous pouvez faire jouer pour construire votre réponse. Ça va aller ou vous voulez, vous pensez qu'on a. Si vous voulez aller encore regarder dans les guidelines pour vous inspirer, vous êtes libre, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai donné les guidelines. C'est plutôt pour vous, pour montrer que ça existe. OK. Et puis, si vous avez des questions sur le cours, bien sûr, vous pouvez m'écrire sans problème. Je suis à disposition d'ici l'examen pour vous donner des clarifications. Il ne faut pas, par contre, m'envoyer le texte de la réponse à la question que vous avez préparée pour que je puisse la réviser. Surtout si vous l'avez préparée via ChatGPT. Non, mais je plaisante, forcément. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce qu'on a vu? Ça va aller? Alors, je vous remercie pour votre attention, votre participation. Je vous souhaite bonne suite.
Merci.
Merci. La semaine prochaine, nous aurons quelqu'un de Capital qui nous parlera pas du tout des chercheurs, mais plus de l'activisme. Et puis, il y avait la question pour la pause concernant les dossiers. Donc, c'est suffisant si vous déposez un dossier par groupe. Et mettez bien sûr votre. On va voir qui a écrit quoi. Ça, c'est important. Et puis, si vous voulez être super sûr, vous pouvez bien sûr mettre deux fois le même dossier. Mais normalement, on va lire tous les dossiers. Donc, pas de souci, puis on prend un dossier pour tout le monde.
Alors, maintenant, et moi, je vais chercher dans mon.